Chers auditeurs, vous allez entendre un cours d'histoire du Canada donné sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal par le chanoine Lionel Groux, président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Monsieur le chanoine.
Mesdames, messieurs, avec la présente émission, je terminerai ma 100e leçon de l'histoire du Canada français et je prendrai congé de mon fidèle et sympathique auditoire. On me permettra de rappeler encore une fois que ces cours, le public et moi-même, les devons à la générosité de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui en a conçu le projet et qui en a soldé tous les frais. Je les dois aussi à la générosité d'esprit du pasteur CKAC, qui m'a laissé mon absolue liberté de pensée et d'expression, et qui, le plus souvent même, a dispensé mes textes de la coutumière censure. Faute de temps, je n'ai pu donner ici ces cours intégralement. On les lira dans les troisième et quatrième volumes de l'histoire du Canada français, dont l'un, espérons-nous, paraîtra en septembre et l'autre en décembre prochain. De cette histoire, que depuis 2 ans nous étudions ensemble, il ne me reste plus qu'à tirer quelques conclusions. Je le ferai aussi brièvement que possible. Le Canada français, nous l'avons déjà dit, n'a plus rien d'une entité géographique. Il n'y faut plus voir qu'une entité culturelle. Pendant les 70 ans qui ont suivi la conquête, il a pu connaître sur le Saint-Laurent une période de repliement. À partir de 1830, l'incurable expansionnisme d'autrefois reprend son cours. La diaspora ne cesse plus de s'épandre. Elle gagne le Sud, sans négliger toutefois le vieil appel des pays d'en haut. Aujourd'hui, soit par reconstitution d'anciens groupes, comme c'est le cas dans l'Est au pays d'Acadie, soit par migration continue vers l'Ouest, le Canada français, avec le Québec pour principal foyer et centre de gravité, étend ses ramifications sur rallonge d'un océan à l'autre, de Saint-Jean-de-Terre-Neuve à Vancouver. En 1951, sur une population totale de 14 9489 âmes pour tout le Canada, la population française compte pour 4 319 167, dont 999 039, près d'un million hors du Québec. Quelques faits consolants corrigent cette dispersion, incontestablement démesurée. Partout au Canada, à la fin de la décennie 1941-1951, la population française se révèle à la hausse. Elle s'est accrue de 23,7%, alors que la population de tout le pays n'a augmenté que de 21,7%. En dépit de l'annexion de Terre-Neuve et d'une immigration considérable d'Europe, elle en reste à 37% de la population totale, sa position de 1931. L'urbanisme s'est continué. L'élément français semblerait en train de reconquérir Montréal. Il n'y comptait que pour 66,3% en 1941. Son pourcentage s'élève à 67,6% en 1951. En revanche, et fort heureusement, l'on relève une poussée plus considérable vers les petits centres urbains. Ainsi, pendant que dans les villes de 30 000 à 100 000 âmes, la population totale a augmenté de 22,4%, l'accroissement de la population d'origine française a été de 31%. Le même accroissement s'élève à 53,1% dans les petites villes, de 10 000 à 30 000 âmes, alors qu'il ne dépasse pas 35,9% pour le reste de la population. En ces immigrants de race française, acadiens, canadiens, qui s'éparpillent d'une province à l'autre, remarquons tout de suite une note commune. Ils ne ressemblent en rien aux immigrants venus de l'extérieur. Ils n'ont point quitté la vieille province, résignés à faire table rase de leur passé, de leur tradition, loques de misère dont ils auraient eu hâte de se dépouiller avec leur bagage matériel. Ils en emportent un autre, plus lourd, leur héritage culturel. Foi, langue, tradition, tout un complexe moral et psychologique. étincelle du feu sacré, relique de la première patrie. Suivez-les partout où ils s'installent. Ils deviennent un ferment de liberté. Ils réclament des droits. Droits scolaires, droits linguistiques, droits constitutionnels, droits de premier-né au Canada. Où la législation les leur refuse, ils se pourvoient eux-mêmes en marge de la loi. Ils se créent des organismes autonomes qu'ils croient indispensables à leur mode de vie. En un mot, ils entendent demeurer ce qu'ils sont, garder tout ce qu'ils pourront de l'héritage. Eux seuls, au Canada, ont vraiment livré pour la liberté scolaire, pour la défense de leur culture et de leur foi, des luttes héroïques. Bons citoyens, serviables, accueillants à tous, ils se révèlent sur certaines choses d'une suprême intransigeance. Foi, culture, histoire les ont marqués d'une telle empreinte qu'un peu partout en Amérique, on les tient pour le groupe le plus inassimilable après le juif. Tendance à la vie autonome parmi les dispersés. Au vieux foyer de Québec, exigence vitale, volonté continue, nourrie inlassablement et qui se manifeste avec le caractère d'une constante d'histoire. Quel aspect du passé s'offre plus opportunément aux méditations de la génération d'aujourd'hui? Se gouverner soi-même, se charger du fardeau de son destin, aspiration d'effort moralement, et qui ne s'explique et ne se justifie que par une conscience vive des valeurs de civilisation qu'on porte en soi et par le message original qu'on se croit en mesure de livrer au monde. Cette volonté des ancêtres de se charger eux-mêmes du soin de leur avenir, nous l'avons pu retracer, on s'en souvient, sous l'Ancien Régime. Nous l'avons retrouvé, et en quelle vigueur, après 1760. Elle a pu connaître, comme en toute existence de peuple, des courbes, des alternances d'affaissement et d'exaltation. Pendant 2 siècles tout près, elle n'a jamais complètement abdiqué. Continuité de dessin, tension d'âme qui font l'austère beauté de cette deuxième époque de l'histoire canadienne-française. C'est bien au spectacle de cette lutte, deux fois séculaires, couronnés par le maintien de leur Église et de leur langue, sans le moindre appui de l'extérieur, que M. Stuart C. Easton écrivait dans le Saturday Night de Toronto en 1946, saga unique dans l'histoire. Quelle mission et quel message aura donc commandé cette longue fidélité? Les catholiques ne sauraient ici répudier cet enseignement de leur foi, que dans la perspective chrétienne, tout peuple est chargé de mission. Collectivités autant qu'individus sont engagés dans la partie suprême inaugurée, lancée par le Christ il y a 20 siècles, pour la rédemption du monde et pour un renouvellement de civilisation. Le petit peuple canadien-français a amplement prouvé, par son expansion missionnaire, qu'il ne traite pas avec légèreté son rôle historique. Que d'autres services, quoique moins élevés, déjà rendus à son pays, lui fourniraient des raisons supplémentaires de vie. Qui, plus que lui, a entretenu au Canada la passion de la liberté politique, le rêve de l'indépendance nationale? Centré sur son unique pays, il aura été, pour le patriotisme canadien, un élément de stabilisation. Peuple solitaire par nécessité, mais non point isolationniste, plus orienté vers l'Europe que vers la République américaine. Fils de la culture française et de l'Église universelle, il aura aidé ses compatriotes anglo-canadiens à sortir de l'anglo-saxonisme pour se hausser jusqu'à l'universalité du monde. Et voilà qui nous fait entrer, sans doute, dans les impondérables. Mais si quelques principes, une métaphysique de l'homme et du monde, comptent pour quelque chose dans la vie d'un pays, que n'auront pas valu au Canada l'exemple donné par les Canadiens français du Québec dans le traitement de haute justice accordé à leur minorité. Cet exemple, tous les petits groupes français de la dispersion ne l'ont-ils pas renouvelé en chacune des provinces au cours de leur lutte scolaire, livrée en somme pour les plus chères des libertés humaines? Et sûrement faudra-t-il faire entrer aussi en ligne de compte l'influence de la doctrine catholique, qui qui aura maintenu dans près d'un tiers de la population ses valeurs morales et spirituelles, où l'historien Toynbee a vu les bases mères de la civilisation occidentale. Une question préalable se pose pourtant, et nous n'avons pas négligé de la poser dans les derniers chapitres de cet ouvrage. Les Canadiens français croient-ils encore en cet avenir? Et sont-ils de taille à le porter? Nous n'avons rien masqué de leur faiblesse ni de leur péril. Pour eux, les problèmes surgissent de partout et avec une alarmante acuité. Dans ce monde nouveau où toutes frontières, portes et fenêtres sont larges ouvertes, quels comportements peuvent bien choisir les petits peuples? Ici, en la vaste Amérique, et même en son pays, le peuple canadien-français sera-t-il absorbé sans se laisser absorber, donner de soi sans risque de tout perdre? Au sein de ce monde en fermentation volcanique, sera-t-il et pourra-t-il être l'un des ferments qui feront lever la pâte, ou ne sera-t-il que le ferment anémique que le poids lourd de la pâte écrase et étouffe? En sa vie intérieure, rien de plus facile que de relever les symptômes inquiétants. Indéniablement, une transformation s'accomplit du type canadien-français et elle s'accomplit au rythme accéléré. Les traditions se dissolvent et les mœurs s'altèrent. Après lecture d'un petit livre, comme Testament de mon enfance de M. Robert de Roquebrune, force est bien de s'avouer qu'au Canada français, une forme de civilisation, une fleur humaine est morte qui ne renaîtra plus. Pourtant, les nations catholiques, au moins celles-là, la foi ne permet pas d'ignorer, sont nations guérissables. L'Église n'a-t-elle pas disposé en elle, pour peu qu'elle daigne courir, d'impérissables moyens de résurrection, une sève immortelle? Sans doute, avant toute chose, le Canada français aurait besoin de reprendre conscience de ses grandes vérités et de retrouver son âme. Un peuple ne vit pas du seul parfum resté au fond d'un vase vide. Son âme, son vrai destin, est-il impossible que le Canada français les retrouve? Une chair de civilisation canadienne-française, comme celle que M. Esdras Mainville entreprend d'instaurer à l'Université de Montréal, et qui aura sa réplique à l'Université Laval, ne pourrait-elle fournir le principe d'une renaissance? Un fait reste certain toutefois. Cette renaissance, cet avenir, ne seront pas le fruit du hasard ou de la chance. Ils ne peuvent être que la récompense d'un effort conscient, volontaire et long. Que les Canadiens français en finissent avec le rêve des existences faciles, avec l'espoir indéfini des hasards heureux. Chaque génération, depuis 1760, a dû mériter de rester française. Celle d'aujourd'hui ni celle de demain ne le resteront à un prix moindre. Les Canadiens français sont-ils, comme l'a pu prédire Toynbee, le « coming people in the Americas »? Seule la providence de Dieu le sait. Ce qu'il importe de se rappeler, c'est qu'établi dans le milieu et dans les conditions qui sont les siennes, un peuple minuscule ne peut se flatter de durer qu'à force de vivre.
Vous venez d'entendre un cours d'histoire du Canada donné sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal par le chanoine Lionel Groulx, président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française.